Cette semaine à l'émission, on reçoit un couple d'agriculteurs hors normes et Brigitte Bédard nous parle des défis vécus dans le monde de l'agriculture aujourd'hui. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode spécial sur l'agriculture. Et j'ai le bonheur d'être accompagné aujourd'hui de James Langlois. Bonjour James.
Bonjour Antoine. Quand on parle de foi et culture, c'est ça, c'est culture du blé, culture...
Exactement. Ouais. Culture maraîchère, culture...
De foi.
C'est... Oui, foi et foi et culture. Exactement. C'est celle qui parle
culture de... Culture de foi.
C'est celle qui parle de son foi sans... pure coïncidence. Hein. C'est Brigitte. Bonjour Brigitte. Ton foi va bien, toi?
Oui, il va très bien.
Ah,
oui,
et
oui.
Ta foi, elle?
Elle va très bien aussi. Ouais, c'est deux, c'est pas merveilleux.
Brigitte, tu t'intéresses à l'agriculture, toi?
Ben, écoute, je m'intéressais pas vraiment à ça avant.
On essaie d'asseoir ta légitimité
non,
ici.
Non,
là,
c'est ça. J'ai zéro légitimité. Je suis juste une journaliste.
Ben, okay? C'est quand même pas mal.
Puis on m'a demandé, on m'a assigné, à un moment donné, j'ai un boss qui m'a assigné au Verbe, au magazine Le Verbe, de me dire, ben Brigitte, fais donc quelque chose sur les fermiers. Ça me disait pas grand-chose, mais... En commençant ma recherche, je suis tombée dans le tal, puis je vais te dire, vraiment, là, c'est
t'as
un
pogné
sujet...
quelque chose.
Non, vraiment, c'est un sujet passionnant, puis j'ai fait plein de découvertes très intéressantes.
C'est quoi ton lien à la terre, là, toi, en toute banlieusarde que tu es?
C'est ça. Moi, ma mère est née sur une ferme en Gaspésie, à Saint-Octave-de-l'Avenir. Salut tout le monde de Saint-Octave-de-l'Avenir.
Tu as dit que ça n'existait plus. Toute
non, ça n'existe plus, mais quand même.
Toute notre grosse gang d'auditeurs de
oui,
Saint-Octave.
Mais, oh, c'est ça, mais tu sais qu'ils se réunissent à chaque année.
Ah oui?
Ah oui, ils sont ici serrés. Puis, mais ma mère, à 18 ans, elle a quitté, est venue s'installer sur la rive sud de Montréal. Et moi, je suis une fille de la rive sud. Uh-huh. Et je vais mourir, je pense, à la rive sud. Mais mon lien à la terre, c'est la montagne. Moi, j'aime le bois. J'ai passé mon adolescence à Fouéré, à la montagne du Mont-Saint-Bruno, qui est une superbe, belle montagne. Puis monter dans les arbres, le grand pin qui avait la tête coupée, on s'installait en haut du grand pin pour regarder les feux d'artifice à Montréal. Moi, c'est ça mon rapport à la terre.
Ben, c'est quand même pas
fou. Fouéré, c'est quoi ça, Brigitte?
Fouéré, ouais, ça donnera lieu à une autre chronique.
On fera une émission spéciale sur le foirage.
Le foirage.
Mais t'as le pouce vert quand même aussi.
Oui, pendant la pandémie, il me semble que tu nous as parlé
un peu. C'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire.
Comme tout le monde, là, c'est à donner à faire.
Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, tu sais? Non, j'ai pas le pouce.
T'as pas de jardin, non?
Non, non. Mon mari en fait un chaque année. Okay. Il y a même dans la maison, il y a un petit truc hydroponique. Là, mais non, moi, ça ne m'attire pas. Ça ne m'attire pas. J'aime beaucoup manger.
Un truc hydroponique, pas pour
non,
des choses
mais non,
spéciales.
Ça, c'est dans mon ancienne vie.
OK. Dans le temps que tu allais sur le grand pin de la montagne.
Oui,
la
c'est
montagne
ça, Fouéré. Ah, okay, ça te donne une petite idée, James.
Ah
de
oui,
ce
oui,
que
oui.
Ça
va.
Un petit peu.
James, toi, t'es-tu fermier ses bords?
J'aimerais ça.
Ah ouais, non. Hein?
Moi, je suis un pur urbain. Là. Même si je suis né à Val-Bélair.
Tu pourrais être un néo-rural. Ça serait ton genre là, de tout laisser pour aller.
Depuis que. Je dirais au cégep, je suis devenu assez. Depuis le cégep, je suis devenu quand même. J'ai développé une fibre écologiste.
Uh-huh.
Puis, depuis ce temps-là, j'ai eu quand même l'appel. J'ai vécu aussi à Neuville pendant plusieurs années.
C'est vrai.
Puis, c'est là.
Dans
le j'ai...
comté de Portneuf.
Ouais, c'est ça. J'ai commencé à vouloir me faire un jardin, tout ça. Puis, plus tard, j'ai travaillé un peu avec les chevaux aussi. Je me suis acheté un cheval. Je me suis intéressé à, justement à l'équitation, à ces choses-là. Puis, j'ai eu des poules aussi, comme tout le monde, là, pendant la pandémie.
Comme tout le monde!
Comme tout le monde. J'ai eu des poules pendant la pandémie. Mais c'est ça, on fait notre petit coin, notre petit potager, ma femme et moi, avec les enfants l'été. On dirait que j'ai un rapport trouble un peu avec le potager. C'est comme, on dirait que personnellement...
Amour-haine?
Ouais.
Pourquoi?
C'est exigeant.
Ouais, mais c'est exigeant. Puis on dirait que j'aime pas ça me salir, mais en même temps, j'aime ça.
Moi, j'aime planter des fleurs.
Que ce soit l'un ou l'autre.
Ça, j'aime ça. Moi, ah. Tu sais, planter des fleurs. Ça, j'aime ça. Tu sais, pour que ça soit beau. Mais faire pousser, c'est tellement difficile, premièrement, faire pousser des affaires. Tu te fais tout le temps bouffer tout par les écureuils. C'est gossant, là. C'est vraiment... C'est de la grosse job.
Ça donne quand même une petite idée des défis, une très, très infime idée de ce que vivent les agriculteurs. Doivent composer avec les intempéries, le climat, les insectes.
Moi, j'avais juste 3 poules à m'occuper, là. Je me rends compte à quel point je suis tellement paresseux, là. Non, mais c'est comme... Tu sais, ça serait tellement naïf de penser qu'un jour, j'aurais une ferme, là. C'est sûr que...
Mais qu'est-ce que t'as fait avec tes poules? Ils sont rendus où?
On va en parler hors d'onde tantôt.
Non, mais il y a eu une belette là, qui leur a fait la
passe du coyote.
Là, ouais.
À un moment donné, là, je me suis retrouvé avec ça. Ça attirait toutes sortes de vermines, tu sais, parce que à l'ancienne Norette, là, c'est pas quand même. C'est pas
il y a de la vermine à l'ancienne Norette.
Oui, non, mais pour vrai, les poules, ça attire les rats, ça attire les animaux. Puis,
là, ils veulent les manger.
Oui, oui, c'était rendu tellement de gestion de problèmes, je m'en suis débarrassé.
Ah, mon Dieu!
On voit bien que vous connaissez ça, l'agriculture. Mais il y a des gens qui connaissent ça encore mieux. On a la chance aujourd'hui de recevoir un couple d'agriculteurs qui, eux vraiment, c'est leur vie depuis déjà plus de 25 ans. Ils ont leur ferme à Hérouville. Accueillons Nicole et Nicolas Roland. Nicole et Nicolas Roland, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes propriétaire de la ferme Nicolas Roland, hein, du même nom, qui se spécialise dans la production laitière depuis 1996. C'est basé à Hérouville, en Mauricie. Voilà. C'est vrai, tout ce que je raconte, là, je ne dis pas de niaiserie à date. J'ai une question toute simple pour commencer. Comment vous avez fait pour vous libérer là, pour venir en studio aujourd'hui? C'est quand même étonnant.
C'est une grande question.
c'est que maintenant, là, on vieillit quand même. Puis on a des enfants. Là.
Donc,
nos jeunes nous remplacent quand on n'est pas là. Oh, oui.
Vous leur faites confiance? Ils sont très bons. Hein?
Full confiance. Oh, oui, il n'y a pas de souci. Oui.
Alors, vous avez 4 enfants qui sont déjà des jeunes adultes.
Oui, Aubin, il a 26 ans. Emma, 24, James, 22 et Levi, 20.
OK.
Donc.
Et là, il y en a 2 là, présentement qui sont en train de s'occuper des vaches. Combien de têtes vous avez à la ferme?
En tout, à peu près 160 avec la relève, là, avec les veaux et les tors. Là,
ouais.
Mais on traite en général de 70 à 80 vaches.
Okay.
C'est considéré comme une grosse ferme, ça, laitière?
Alors, on a été longtemps... nous, on n'a pas rebougé au niveau de la production, c'est pareil. On a été longtemps dans la moyenne au Québec. Okay.
Mmh.
Et là, maintenant, on est plutôt pour les toutes petites fermes, mais pas loin.
Okay. Parce que dans les dernières années... C'est un fait, là. Il y a eu beaucoup d'intégration. Il y a plusieurs fermes qui se sont fait avaler, dévorer par des plus grosses fermes. Le nombre de fermes au Québec est en chute libre. On aura des données là-dessus, à moins que tu en aies sous la main déjà.
Écoute, justement, je me disais, voyons, ça se peut-tu? De 1996 à 2016...
Donc, 96, c'est l'année où vous êtes lancé en affaires.
Il y a 7000 fermes qui ont disparu du paysage québécois.
Oui.
7000!
C'est en plein ça.
C'est des familles, là. C'est pas juste des bâtisses, là. C'est des familles.
Oui.
Pour la plupart, c'est des fermes. Il y en a qui ont carrément disparu. Il y en a d'autres qui ont été intégrées à d'autres entreprises voisines.
Voilà. Alors, la production est restée pas mal la même.
On fait autant de lait au Québec.
On fait autant de blé, autant de soya, autant de lait.
Oui.
Mais sauf que les unités grossissent. Parce que tu en as 2-3 qui arrêtent, tu en as un qui renglobe tout ça.
Vous avez des offres, des fois, des gens qui vous offrent de vous racheter?
Non. Moi, il n'y a personne qui m'a jamais proposé d'acheter parce qu'ils savent que, de toute façon, nous, on ne veut pas vendre.
Uh-huh.
On est là pour rester. Puis, moi, j'ai racheté des terres, mais je n'ai pas racheté de terres. Disons que ce n'est pas d'une ferme qui arrêtait, c'est des terres qui étaient déjà arrêtées. Ça fait très longtemps. Là.
Ouais.
Donc,
c'est comme si, plutôt que d'avoir plein de petits kiosques à légumes au Québec, on était avec de moins de kiosques à légumes et plus de Walmart un peu partout.
Voilà. C'est en train de grossir.
Donc, il y a de moins en moins de fermes, mais les fermes qui restent, qui subsistent, qui survivent, produisent, mettons, 1 ou 2 produits. Au lieu qu'avant, dans les fermes d'antan, tu avais plein de produits dans chaque ferme qui étaient plus de dimension humaine, je dirais.
Voilà. Maintenant, c'est spécialisé.
Tout le monde fait de la
soit tu fais du porc, soit tu fais du lait, soit
c'est
tu fais
ça.
Du poulet.
C'est un système qui a commencé.
Pour être capable de produire beaucoup. parce que c'est de l'agriculture commerciale ou industrielle, on peut l'appeler comme on veut, là, c'est plus tellement de l'agriculture vivrière. Mm-hmm. C'est pas de l'agriculture familiale en général.
Vivrière?
Oui.
Ça veut dire quoi, ça?
C'était l'ancienne agriculture, c'est l'agriculture pour vivre. Ah. Chaque famille vivait de son agriculture, c'était l'agriculture vivrière.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé dans cette aventure-là? Peut-être, Nicole, vous, est-ce que vous venez de milieu agricole?
Oui, chez moi, aux États-Unis, on avait une ferme de boucherie. Mon papa, il avait des bêtes à bœuf. Et puis,
vous faisiez
on avait
viande,
des chevaux ouais. aussi. Oui, c'était de la viande, les vaches Angus qu'on avait.
OK.
Oui. c'est ça. Puis il faisait des cochons aussi, puis on avait des poules, puis on avait des oies, on avait toutes sortes, en fait, on avait toutes sortes de choses.
Donc pour vous, c'était tout naturel de poursuivre dans cette voie-là?
Oui, mais je ne connaissais pas les vaches laitières avant de rencontrer Nicolas, mais okay. c'est sûr que, tu sais, c'est une ferme pareille, là, puis c'est des animaux pareils.
Mais vous en faites un peu de viande quand même à la ferme?
Oui, chez nous, on fait de la viande.
Pour vos besoins à vous?
Oui, c'est moi qui voulais absolument qu'on ait des vaches Angus sur la ferme parce qu'au début, on engraissait une tare laitière, une tare une Holstein, mais la viande est moins bonne, c'est plus maigre et puis tout ça. Puis là, j'ai dit non, mon papa, il avait des vaches Angus, moi, je veux une vache Angus aussi, là, puis c'est ça.
Une tare, c'est une femelle qui n'enfante pas, c'est ça?
Voilà, une tare, c'est une femelle, mais une jeune pour la relève du troupeau.
Ah, c'est ça.
Voilà.
Okay. Nicolas, vous venez d'un milieu agricole aussi?
Oui, oui, oui. Moi, on avait notre ferme en Franche-Comté, en France. Et puis, c'est mon frère a repris la ferme chez nous, la ferme de mon père.
Ouais.
Donc, c'est toujours en activité.
Laitière aussi?
Oui, ferme laitière aussi.
Alors, vous connaissiez ça avant de vous établir ici?
Ah oui, moi, je suis né là-dedans. J'ai toujours fait que ça. Oui.
On a plusieurs idées préconçues là, sur la vie sur la ferme, comme quoi les agriculteurs se lèvent très tôt, se couchent tard, font des grosses journées. Ça ressemble à quoi une journée sur la ferme Nicolas Roland? Là? Vous faites combien d'heures sur la ferme?
Oui, quand même. C'est des grosses journées. Il peut y avoir des journées plus calmes, une journée où il pleut, tu peux te reposer parce que tu as un peu ton propre boss. Hein, si tu veux dormir 2 heures l'après-midi, tu peux. Hein. Sauf qu'il y a des fois, comme l'été surtout, pendant les semences, pendant les foins et les récoltes, il y a des fois, ça va être on peut le dire, là, c'est des 3 semaines, 1 mois complet de 5h30 du matin à 10h du soir, non-stop à la course.
C'est ça parce que vous cultivez le foin pour nourrir les vaches.
Voilà. Donc, il y a des fois, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de dimanche, il n'y a rien. Là, c'est à la course, selon les années, selon la météo. Il y a des années où on a plus de temps pour faire les travaux. Là, ça va être moins fou. Mm-hmm. Mais il y a des années où vraiment c'est fou. Puis en général, dans des semaines de 80 à 100 heures par semaine, c'est quand même fréquent.
Ah ouais.
Oui.
Vous êtes fatigué de ça?
Non, mais c'est un peu une habitude aussi. Uh-huh. On est habitué là-dedans. On ne va pas au gym, nous. On n'a pas. C'est pas la peine.
Mais non, c'est ça.
Jamais, je ne suis jamais allé là. Ça ne donne rien.
C'est pas, Nicole, ouais. C'est pas à cause. C'est pas parce qu'on fait 80 heures par semaine qu'on ne vit pas des moments de famille pareils. Parce que quand les enfants étaient petits, par exemple, là, on allait souvent amener le lunch au champ. Et donc, on faisait un moment, on faisait un pique-nique avec Nicolas au champ. Et puis, même James, son anniversaire, c'est dans le mois de juillet, ça tombait toujours en plein milieu des foins. Donc, on amenait carrément le gâteau de fête dans le champ. Puis, on fêtait son anniversaire dans le champ. On amenait des ballons de soccer. Puis, on jouait. Ouais, puis, on prenait un moment.
On a passé des beaux moments à travers tout ce travail-là. On prenait une demi-heure pour... on arrêtait tout, puis... Donc, on a quand même passé des bons moments avec les enfants.
Chaque enfant faisait un tour de tracteur aussi. Après le dîner, tout le monde faisait leur tour de tracteur. Puis on jouait au soccer en attendant que tout le monde a fait leur tour.
Mais c'est certain que la vie doit être différente quand notre lieu de travail, c'est aussi là où on vit.
Et voilà.
Si on n'a pas à sortir de chez soi, etc. C'est pas
oui,
là...
puis moi, par exemple, je suis toujours revenu souper vers ma femme et mes enfants. Donc, on était tous proches les uns des autres.
Vous ne faites pas 2 heures dans le trafic par jour.
Voilà. D'ailleurs, moi aussi, quand je vois ça à Montréal, là, ces gens dans le trafic, ça m'épouvante bien raide. Je me demande comment ils font.
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils font.
Ils se le demandent aussi, je pense bien.
Oui, donc c'est ça. Parce que aussi, c'est un métier où c'est une passion. Hein.
Ouais.
Donc, on n'y va pas, je dirais, à reculons. Là. Ouais. On est content d'aller traire nos vaches. On est content d'aller faire du foin. c'est un métier où c'est pour ça aussi qu'on calcule pas nos heures.
Ouais.
C'est qu'on est toujours heureux dans notre truc, puis on emmène nos enfants avec nous, notre monde avec nous, puis la vie se fait avec la ferme.
Vous avez pris une décision il y a pas si longtemps de ça. Vous parliez du foin tantôt. C'est pas tous les agriculteurs, tous les producteurs laitiers qui sont qui nourrissent leurs vaches au foin autant que vous. Mm-hmm. La plupart du temps, en tout cas dans les fermes de votre taille et plus grosse, c'est beaucoup de la moulée qui est utilisée pour nourrir les vaches. Expliquez-nous le virage que vous avez pris. Peut-être, Nicole, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années là, pour faire ce virage-là?
Bien, d'abord, on a commencé par devenir biologique, donc une ferme bio. Ça faisait une couple de fois qu'on voulait le faire dans le passé, mais quand on regardait, on contactait les groupes pour savoir comment devenir biologique. C'était compliqué, il y avait beaucoup de paperasse.
C'est complexe.
Oui, c'est vraiment complexe et on s'est dit, oh non, pas tout de suite. Mais on a toujours quand même fait un peu le style bio, pareil.
Sans pour autant avoir la certification.
Oui, c'est ça, on n'avait juste pas la certification. Puis Aubin, quand il a terminé ses études, ben, il a voulu devenir biologique. Donc on a dit, on est d'accord, on voit fort, mais c'est toi qui vas faire la paperasse là-dedans. Donc ça a commencé avec la ferme bio. Et par la suite, ben, il a décidé qu'il voulait trouver un moyen pour avoir plus de temps, avoir les vaches plus en santé, gagner quand même les sous pareils. Donc, essayer de mettre tout ça ensemble. Là, puis, il a décidé de faire la monotraite.
Qu'est-ce que c'est, ça, Nicolas?
Je vais laisser Nicolas expliquer ça.
Alors, c'est ça, là, on en arrive à la monotraite parce qu'on a un troupeau de vaches qui est zéro moulée. On ne donne plus de moulée de supplément ou de maïs, donc on est...
Alors, tout ce qu'ils mangent, c'est le foin qu'il y a par terre ou celui que vous leur donnez l'hiver?
C'est de l'herbe en été et du foin en hiver.
C'est tout.
C'est tout. Elles sont juste au foin. Donc, on donne des minéraux, ce qui est phosphore, calcium, sel, évidemment pour la santé du troupeau. Et donc, ça fait que nos vaches, on peut se permettre de traire qu'une fois par jour. Parce que si on traite deux fois, on épuise la vache. Parce qu'elle n'a pas toute cette énergie, ces protéines qui viennent d'ailleurs. Donc, vu qu'elle mange que du foin et puis de l'herbe, quand on traite qu'une fois, on ne pompe pas sur son système biologique. On ne la détruit pas, la vache, mais on a des vaches en très bonne santé. Et depuis qu'on traite qu'une fois par jour, ça va très bien. C'est ce qui s'appelle la monotraite, qui est beaucoup faite en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs.
Ah oui?
La monotraite, dans les gros troupeaux en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup dans les troupeaux qui vont très loin pour manger. Et nous, c'est ça, vu qu'on est parti à laisser nos vaches aller manger loin... Ben, c'est beaucoup d'ouvrage de les ramener vers la grange pour traire. Donc, en traillant qu'une fois par jour, on n'épuise pas la vache avec le voyageage. Ah. Elle a le temps de manger et c'est qu'une fois par jour qu'on la traite, on ne l'épuise pas.
Vous les ramenez comment?
On les ramène à pied, on va à pied chercher nos vaches. Alors, il est possible d'avoir... Il y en a qui vont avec un chien, dans des cas comme nous. Là. Nous, on en a trouvé un. Il serait très, très bien allé aux vaches. Mais il était très dangereux. On était obligé de le liquider. Il mordait très bien.
Donc, ce n'est pas la règle générale, la monotraite. C'est ça que je comprends. C'est qu'en général, maintenant, dans les fermes, on traite deux fois par jour les vaches.
Ou trois fois par jour.
Ah oui?
Ouais, il y en a qui se sont mis à traire trois fois. Mm. Ouais, pour produire plus, pour justement aller contre ce problème économique qu'on ne gagne plus assez. Mm. Le monde, ils se disent qu'en traillant trois fois, ben, ils vont aller chercher plus de lait. Parce que la vache, plus tu la traites, plus elle donne du lait. Mm. Mais plus elle mange. Ça va l'un avec l'autre.
Donc, elle mange, mais aussi, j'imagine que c'est ça, vous parliez de la santé de la vache à long terme. Vous êtes gagnant? Vous avez vu une différence sur la santé du troupeau?
Alors, nous, oui, parce que moi, ça fait déjà plusieurs années que j'avais diminué la moulée, qu'on boostait moins les vaches, là.
Ouais.
Puis nous, on a des vaches qui ont 10 ans, 14 ans, 12 ans. Oui, on a beaucoup de vieilles vaches.
Des belles petites vieilles, là, ouais.
Ah oui, on a des vieilles vaches dans notre troupeau parce qu'elles ne sont pas maganées. Donc, qu'il y a beaucoup de troupeaux aujourd'hui que des vaches arrivées à 4 ans.
Ils sont épuisées.
4 ans de moyenne.
Et là.
Parce que les plus vieilles ont 5-6 ans, là. Oui, oui, oui.
Incroyable. Produire du lait biologique, est-ce que ça implique... La monotraite, pas nécessairement?
Non.
Mais est-ce que ça implique le foin uniquement?
Non. Ce qui rentre dans le biologique, ce que tu dois amener à tes animaux, foin ou herbe bio, donc qui n'a pas été, il n'y a pas eu d'engrais chimique dessus, il n'y a eu que du fumier. pour engraisser les champs que fumier, interdit engrais chimique. Et l'autre affaire, c'est que si tu achètes des aliments, il faut acheter des aliments certifiés bio. Mmh. Donc, tu peux acheter des maïs, un maïs bio. Tu peux acheter des suppléments bio, des soya bio pour soigner tes vaches. Mmh. Alors, le coût est cher dans le bio, là, si tu achètes... mais c'est ça.
Et il faut aussi ne pas... tu sais, on est limité dans le soignage des animaux.
Antibiotiques, hormones. S'ils sont malades,
c'est ça. Donc, on peut donner des antibiotiques, mais après, le retrait sur le lait et la viande est beaucoup plus long que pour une ferme traditionnelle, si on veut, ou conventionnelle.
Donc, si on boit du lait bio, par exemple, celui de Natrel, peut-être c'est le vôtre.
Oui, si tu veux boire du bio, oui.
Non, mais je veux dire, c'est peut-être votre lait qu'on boit. Ça, on achète le lait
alors,
biologique.
Alors, tu ne sauras pas si c'est le nôtre, parce que souvent, c'est un,
non, c'est ça,
c'est
mais
un camion qui va ramasser.
C'est pourquoi je dis peut-être.
Ça se peut qu'il y ait du lait à vous là-dedans.
Ça se peut qu'il y ait du lait à nous là-dedans, oui.
Ben, c'est assez intéressant parce que vous allez carrément à contre-courant de la tendance qui est à grossir pour couvrir les frais, s'endetter un peu plus, acheter plus de machinerie. Vous êtes presque dans une logique de décroissance. Là, je sais que le mot n'est pas toujours accepté, mais vous avez décidé de ralentir un peu le rythme pour, en bout de ligne, avoir une productivité comparable.
Oui.
C'est ça, j'ai bien compris.
Si tu veux, si on parle en termes de production, moi, par exemple, avant, quand j'étais plus conventionnel, là, mes vaches produisaient de 7000 à 8000 kilos de lait par année, par vache. Et là, aujourd'hui, mes vaches font 4500 par année. Ils font la moitié. Et je n'ai pas de cachette à vous dire que financièrement, ça va aussi bien.
Ouais. Parce que vous avez moins de
comment
dépenses.
Comment ça se fait?
Parce que le lait qu'elles produisent, je suis mieux payé au litre de lait parce qu'il y a plus de gras. Avant, on faisait, par exemple, 4 de gras au litre de lait. Maintenant, on est proche 5. On est à 4,8, 4,9. Donc, mon lait est déjà mieux payé. Et ensuite, je n'ai pas les factures. On fait un lait avec ce qu'on a sur la ferme, avec l'herbe et le foin que j'ai. Je ne fais pas un lait avec du stock que j'achète. Donc, mes vaches ne sont pas malades. J'ai quasiment pas de frais de vétérinaire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte.
Oui, comme tu me racontais quand je t'ai interviewé là, pour l'article sur les fermes laitières, les fermes familiales, tu m'expliquais que justement, tu n'achetais pas la moulée de la coop, puis tu n'achetais pas tout ça, ce qui faisait en sorte que tu rentrais dans ton argent, ce qui n'était pas le cas des autres fermiers autour.
Voilà, parce que c'est assez spécial. Il y a une espèce de... Si tu veux, entre agriculteurs, là, on ne va pas se le cacher, faut que tu puisses dire à ton voisin que moi, mes vaches, elles font 10 000 kilos de lait par vache. Tu comprends, il y a une espèce de...
De fierté. Hein,
de gloriole, de frime, appelle ça comme tu veux.
La compétition.
Oui, une compétition. Et puis ça amène à de la misère, ça. C'est comme si je te dis, moi, j'ai acheté un tracteur de 120 forces, là, puis toi, demain, tu vas en acheter un de 140. C'est une espèce de compétition, mais qui n'a pas de bon sens, là. Prends un crayon, puis calcule, là, parce que ça vaut
la peine. Parce que tu dis, si l'autre a des meilleurs équipements que moi, il va produire davantage, puis moi, je vais traîner de la patte derrière.
Ouais. Sauf qu'il a peut-être des meilleurs équipements, mais pour tout de suite, dans ce qu'on produit, ça ne paye pas. Alors, reste avec tes vieux équipements. Tu comprends, faux.
Mais quand vous avez commencé en 1996, est-ce que vous pensiez aller vers là déjà? Ou ben, pas du tout?
Nicole.
Non. Nicole.
Pas en tout.
Non, je dirais que quand on a commencé, on avait des idées un peu plus... tu sais, on voulait avoir plus de vaches, puis grossir notre ferme, parce qu'on voulait que... on voulait avoir une famille, et puis on espérait que nos enfants allaient reprendre. Donc, on pensait avoir une ferme plus grande pour pouvoir... mettre les enfants sur la ferme plus tard.
On voulait suivre le mouvement.
C'est ça. Mais à un moment donné, on a vu qu'on a décidé que ce n'était pas pour nous de grossir la ferme. On aimait mieux avoir une ferme familiale parce qu'on voulait avoir le temps avec nos enfants sur la ferme. Donc, on a regardé plus de rester plus petit parce que quand on a commencé, on était dans les fermes moyennes. Puis on était même, tu sais, dans les fermes moyennes plus grandes. Mais au fur et à mesure des années, ben maintenant, on est considéré une petite ferme parce que nous, on n'a pas changé, en fait.
Incroyable.
Donc,
ce que vous dites, c'est que ça a une influence aussi sur votre vie de famille.
Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Ah, oui.
Oh, oui, puis on a toujours voulu avoir comme des enfants. On a eu des chevaux, on a eu des chèvres, on a eu toutes sortes d'animaux pour que les enfants, ils aiment la ferme puis qu'ils viennent à la ferme puis que ça soit une ferme familiale. Donc... On a changé la vision.
À un moment donné, c'était un vrai zoo, la ferme. Il y avait des lapins, des poules, des chèvres. Il y avait Mais c'est ça aussi qui fait le fun pour les animaux. Mm. Parce que si tu veux, s'il n'y a pas tout ça, les enfants, ça leur permet de soigner le mouton ou la chèvre ou puis de s'amuser par là. Si j'avais voulu, admettons, traire 200 vaches, puis les gamins, tu les traînes avec toi à l'étable, ils ont 5 à 10 ans, là, puis allez, go, 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 là, on en traite 300, puis ouvre la salle de traite, ouais. Et puis il faut que ça roule. Et puis le gamin, là, quand il va arriver à 15-16 ans, il va dire le père, là, c'est bien beau ton truc, là, mais moi, je ne veux plus y aller. ça ne marchera plus.
Est-ce que vous trayez à la main?
Non.
Vous avez
une qui traye à la main. Là. C'est tout mécanisé.
Oui, parce qu'on n'en sort pas, là, j'imagine, à 160 vaches.
Oui.
Puis les enfants, est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils reprennent la ferme?
Oui. On en a deux qui veulent reprendre avec moi, là, puis qui vont racheter ça là, ces années-ci. Là. Oui.
Nicole et Nicolas Roland, vous en parlez, vous en avez parlé à Brigitte là, aussi dans l'article. Votre vie de foi, comment ça s'intègre à la vie de la ferme? Est-ce que on voit beaucoup de détresse chez les agriculteurs, par exemple? Hein? C'est un sujet qui est de moins en moins tabou, là, même si il reste beaucoup de chemin à faire de ce côté-là, des problèmes de détresse psychologique. Est-ce que ça, vous sentez que ça vous aide, c'est un soutien pour vous d'avoir la foi dans ce contexte-là? Peut-être Nicole,
oui. Oui, c'est sûr que oui. Mais nous, sur la ferme, notre foi, on a toujours vécu en simplicité. On a toujours fait les prières le midi, avant les repas. On a toujours fait les prières le soir avec les enfants. Donc, tu sais, on a toujours prié. On a toujours demandé à Dieu de nous aider dans tout ce qu'on fait. Donc, oui, je pense que c'est un soutien quand même.
Ça nous a aidé beaucoup parce qu'on a toujours prié, c'est ça? Moi, j'ai toujours été croyant, de toute façon. J'ai toujours fait ma prière le soir en m'endormant, là, puis... Je pense que c'est comme ça fait partie de ma vie, ça.
Oui, on ne se pose pas trop de questions là-dessus. Là, on se dit, ben, écoute, si Dieu veut qu'on continue, ben, ça va fonctionner. Je ne sais pas, c'est pas...
Ouais, on parle de la foi. La foi, à mon avis, c'est une confiance. Moi, j'ai toujours eu confiance en Dieu.
Ouais.
Moi, je le vois comme le créateur, donc c'est le plus puissant. Puis nous, sur la Terre, on est tout petit, on est minuscule. Alors, on a tous besoin, un jour ou l'autre, des autres. Et Dieu, c'est pareil. Un jour ou l'autre, t'en as besoin. Donc, t'es mieux de pas trop t'en éloigner.
Amen.
Merci beaucoup de votre témoignage. On va poursuivre la discussion avec Brigitte et James dans les prochaines minutes. Et c'était vraiment passionnant de vous entendre parler de votre passion à vous. Merci Nicole, merci Nicolas.
Merci.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
James Langlois, journaliste pour Le Verbe Média, bonjour.
Salut Antoine.
Alors James, tu voulais nous parler d'un type d'agriculture complètement marginal, l'agriculture qui se passe sur la ferme apostolique. Qu'est-ce que c'est ça?
Oui, il y a quelques années, j'ai découvert un petit pamphlet, en fait, de Catherine de Uweck Doherty. C'est celle qui a fondé la Madonna House. Pour le dire simplement, là, c'est une laïque, en fait, qui était même mariée, qui s'est fondée une communauté chrétienne en Ontario, à Combermere, plus précisément. Donc, c'est une communauté qui rassemble des prêtres, des laïcs ensemble, qui vivent une vie... simplicité, une vie chrétienne. Et elle a écrit beaucoup de choses, Catherine de Uweck Doherty, mais je suis tombé sur ce petit pamphlet qui a été publié dans la première fois en 1971 et qui s'appelle « La ferme apostolique ». Et ça a vraiment attiré mon attention. J'avais envie de vous en parler parce qu'il y a très peu, je trouve, de textes, il y a très peu de théologie ou de réflexions qui se sont développées, des réflexions spirituelles en lien avec l'agriculture et la foi. Et ici, donc, la ferme apostolique, c'est comme une petite plaquette qui rassemble un peu des deux textes, en fait, deux, trois textes qui ont été publiés d'elle de manière disparate. Et le premier texte, qui est très intéressant, s'appelle « Ne provoquez pas la colère de la terre ». Et elle raconte cette histoire. Elle vient de... C'est une Russe, elle est née en Russie, Catherine. Et puis, elle raconte que, justement, elle était avec son père quand elle était toute petite, puis ils ont rencontré un homme qui travaillait sur sa terre et il a dit à son père, « Monsieur, prenez garde de susciter la colère de la terre car elle se vengera. » Et Elle parle de cette anecdote pour réfléchir à c'est quoi notre lien avec la Terre, notre expérience de la Terre. Et elle se rappelle beaucoup son enfance en Russie en voyant justement cette agriculture qui était pratiquée de manière pour la subsistance, mm-hmm. quoi, où il y avait une biodiversité, où on respectait, je dirais, les cycles naturels de la Terre. Aujourd'hui, bon, on parle d'agriculture biologique, on parle de décroissance, mais comment déjà...
Le modèle conventionnel, c'est de l'agriculture assez intensive.
Ouais, c'est ça. On pourrait dire, maintenant, ce qu'on appelle conventionnel, c'est intensif, mais en fait, ce qui est conventionnel, c'est une agriculture beaucoup plus simple. Et là, elle va exhorter dans ce texte-là, finalement, à respecter la Terre pour ce qu'elle est, à respecter ses cycles. Et elle va dénoncer, justement, cette vision de l'agriculture qu'on a aujourd'hui. Tout ce qu'on recherche, c'est de d'exploiter la Terre le plus possible pour, justement, engranger le plus de profits. Et on pense, dans cette logique-là, qu'on va finalement en ressortir gagnant. Mais tantôt, on a entendu justement le témoignage de Nicole et Nicolas, et on voit comment cette vision-là est appelée à se réformer, parce que, qu'on le veut ou non, c'est une vision qui va mener nécessairement vers un précipice. Parce que plus on exploite la Terre d'une mauvaise manière, et plus, comme elle dit, elle va se retourner contre nous, parce que si on ne la respecte pas... C'est très beau, c'est très avant-gardiste pour une chrétienne. En 1971, elle va même dire que, justement, nous sommes des fils de la Terre, et donc que la Terre, c'est notre mère. Et elle va parler de la Terre-mère, ce qui est commun aussi comme appellation aussi dans le mouvement, aujourd'hui dans le mouvement écologique. Mais...
Évidemment, il n'est pas question de personnifier là, ou de personnaliser la Terre une espèce d'idolatrie de l'écologie.
Non, on est vraiment dans plus le milieu symbolique.
Oui, oui, oui.
Puis elle va faire justement aussi toute cette lecture en lien avec la Genèse où tu es poussière, tu retourneras poussière, donc on retourne à la Terre, l'homme. Puis... Donc c'est très beau. Puis ce qu'elle appelle la ferme apostolique, au fond, c'est quoi? C'est cette idée que on doit, si on est appelé à être agriculteur, à le faire avec charité et à le faire dans une vision qui respecte vraiment le plan de Dieu sur la terre. C'est très beau parce qu'elle va même dire qu'aujourd'hui, quand on pense au travail de la terre, on le voit beaucoup comme une corvée. C'est sûr qu'il y a un élément de souffrance,
il y a un labeur
qui est là, mais elle va dire que la corvée, c'est quelque chose qui est lourd, qui est fait sans amour, alors qu'elle rappelle notamment sa mère qui disait qu'elle devait aller soulager ses beautés de leur fardeau en parlant des vaches qu'elle allait traire. Donc, il y avait cette relation-là, une relation avec la terre, avec la création qui en est une d'amour, de charité. Puis, on peut étendre aussi, évidemment, elle parle de la terre, à proprement parler de la jachère, par exemple, de laisser la terre se reposer, mais tantôt, Nicolas parlait aussi de la monotraite. On peut l'étendre aussi avec les animaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exploiter les animaux indéfiniment pour en extirper, les instrumentaliser. Ça reste des vivants, puis il y a quelque chose à respecter.
Donc, il y a une sagesse de respecter leur rythme ou d'être attentif à ces rythmes-là qui sont propres à chaque animal.
Donc, elle termine cette plaquette en disant « L'agriculture est un autel sur lequel on ne peut déposer que le pain et le vin de la vérité. Tentons de rétablir les petites fermes et de mettre fin aux grandes exploitations agricoles, à la malhonnêteté, à l'avidité et à l'égoïsme. » Je trouve que même si ça a été écrit dans les années 70, ça reste un peu plus d'actualité aujourd'hui.
C'est des beaux principes, James, mais toi et moi, on a plusieurs produits sur notre table qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas d'agriculture.
Absolument.
De base, mais aussi, l'agriculture industrielle, ça fait partie de la modernité. Comment on fait pour s'en sortir? Est-ce que même c'est souhaitable? Je lance la question. Est-ce qu'une autre agriculture est vraiment possible pour nourrir tout le monde?
Moi, je pense que c'est... Ouais, je ne suis pas spécialiste dans ces questions-là, mais je pense que d'une certaine manière... mais ça impliquerait tout un changement de paradigme social, mais je pense que...
Mais c'est tout un système qui doit changer.
C'est ça, c'est tout un système qui doit changer.
Mais moi, je pense qu'on a assez d'hectares sur la planète pour soigner, nourrir la planète.
Exactement.
Avec des produits quand même de qualité.
Ah oui,
avec toute la bouffe qui se jette entre la terre et la terre.
Oui, s'il y avait moins de gaspillage puis qu'on fasse attention un peu, on peut nourrir même plus de personnes qu'on a là sur la terre.
Oui,
parce que le problème, il n'est pas que... Il est au niveau de la distribution.
Absolument.
C'est plus ça.
Donc, ça s'appelle la ferme apostolique de Catherine Doherty. Ça se trouve encore quelque part, ça? Ou c'est une relique que tu as trouvée?
Ça doit être sur Internet.
Honnêtement, je pense...
Les Internets.
Sur les Internets.
Je pense que c'est sur Internet. Sinon, on peut l'acheter certainement à partir du site web de Madonna House, là, qui est... Ah ouais. Vous tapez ça sur Google. Mais c'est vrai, bonne question. C'est sans doute disponible aussi dans un format électronique. Là.
Merci beaucoup, James Langlois.
De rien.
Brigitte Bédard, journaliste pour Le Verbe Média, bonjour.
Salut Antoine.
Tu as fait une enquête durant laquelle tu t'es intéressé à un enjeu particulier dans le monde de l'agriculture au Québec. C'est celui de la détresse qui est vécue par nos agriculteurs. Raconte-nous là, les grands traits de cette enquête-là.
En fait, l'interrogation, c'était ben, comment ça se fait que, de façon régulière, ça fait la une des journaux, qu'il y a beaucoup de suicides chez les agriculteurs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit passer, tout ça. Puis on s'est dit, ben, on va aller voir pourquoi, tu sais, c'est quoi les raisons, tu sais. Puis j'ai essayé de trouver des agriculteurs qui voulaient parler de ce qu'ils vivaient et ça a été très difficile.
Ah ouais, pourquoi?
Oui, ben c'est un des facteurs de risque, en tout cas. Tu sais que les fermiers, ils appellent plus ça vraiment des fermiers. Hein. Maintenant, c'est des entrepreneurs agricoles.
Ouais. Ça montre un peu le paradigme.
Voilà. Ouais. Alors, j'ai une affaire. La première affaire que j'ai appris, c'est ça. Fermier, ça se disait plus. Sauf pour les petites fermes. Que...
Voilà. Êtes-vous des fermiers, vous, Nicolas?
Oui, c'est ça. Pour les Rolands.
Ouais. Ça vous insulte-tu si on vous dit que vous êtes des fermiers?
Non. La seule analyse qu'on peut faire, c'est que quand ils étaient fermiers, ils allaient bien. Maintenant, ils sont
entrepreneurs agricoles.
École puis suicide.
C'est ça, voilà. Alors, de 1971 à 87, le taux de suicide des agriculteurs québécois est le double des hommes du même âge dans la population québécoise. Et ce taux a augmenté au fil du temps. Alors, c'est un domaine particulier où il y a une hausse du taux de suicide et de détresse psychologique. Et je suis tombée par hasard, même si je ne crois pas au hasard, sur une thèse de doctorat de Ginette Lafleur, qui vient de publier sa thèse de doctorat, qui vient de la déposer et qui raconte, cherche les facteurs de risque qui causent le suicide, le taux de suicide. Et en fait, c'est la première étude qui s'attarde vraiment à chercher c'est quoi les facteurs de risque. Et il y en a à peu près une vingtaine. Mmh. C'était fascinant, cette thèse. C'est 300 pages. J'aurais voulu avoir le temps de toute la lire. J'ai parlé à Mme Lafleur. En parlant à Mme Lafleur, je suis tombée aussi sur une dame qui est fort intéressante, Mme Martine Fraser, qui est travailleuse de rang.
C'est une travailleuse de rang?
Alors, wow. Ça, j'ai découvert que ça existait aussi, des travailleuses de rang, travailleurs de rang. Il y en a 18 au Québec, réparties dans différentes régions. Elle, Mme Fraser, est en Mauricie. Et ce sont des personnes qui apportent un soutien psychosocial aux agriculteurs pour essayer de voir, ben, justement, est-ce qu'ils sont dans les facteurs de risque? Qu'est-ce qu'ils vivent? Et tout ça. Puis,
Il y a des travailleurs de rue, il y a des travailleurs de rue.
Exactement. Puis, c'est tout lié à, justement, au cœur des familles agricoles, qui est une association qui a été mise sur pied par... une dame, et maintenant, c'est Mme Ginette Lafleur qui s'en occupe. Donc, tout ça est comme relié. Donc, plus qu'on cherche dans un domaine, plus tu fais de découvertes. Mais tu sais, j'aurais pu faire un reportage qui aurait duré un an.
As-tu quelques exemples de facteurs de risque?
Oui, justement. C'est le premier, le plus important, c'est les problèmes financiers et les problèmes de travail au niveau, je dirais, concret. Là. Ensuite, c'est les conflits familiaux. Donc, puis ça, j'en ai rencontré des agriculteurs qui étaient sur la ferme familiale avec la parenté et que lui, il travaillait genre 80 heures semaine puis il gagnait 24 000 $ par année. C'était sa femme qui le faisait vivre. Ah, oui. Il voyait pas ses enfants. Il est tombé en dépression. Ils ont failli se divorcer. Et ça faisait 5 ans que sa femme, il disait, « Tu veux-tu, tu vas lâcher ça? » Mais il y a comme un esprit très qui est vraiment généralisé dans le monde agricole, dans les familles agricoles comme ça, c'est que on doit poursuivre la ferme du père qui l'a eu de son père puis qui l'a eu de son père. Donc ça là, c'est une pression très forte. Mmh. Donc ils veulent tout faire quitte à mourir là. Mmh. Puis donc eux autres finalement, ce couple là, lui il a décidé qu'il quittait la ferme, puis maintenant, il dit, puis là, mon couple, on est rescapé, mais on travaille sur notre couple. T'sais. Donc, des conflits familiaux, mais il y a aussi multiples facteurs de stress puis perte de contrôle sur leur travail. Ça veut dire que, justement, il y a tellement de nouvelles technologies, de nouvelles règles du gouvernement qui arrivent comme à chaque mois, là, une nouvelle affaire qu'il faut respecter les normes, il faut respecter ci. Il y a tellement de nouvelles adaptations.
Oui, ça aussi,
une charge administrative qui, bien au-delà de la capacité de monsieur, madame, tout le monde, là, vous nous en avez parlé un peu, la paperasse, c'est toi qui vas s'en occuper. Oui,
mais oui. Je peux vous dire que quand j'ai racheté ma ferme en 96, il n'y avait rien en paperasse.
Ah, c'est ça.
Voilà. Oui, on avait juste la comptabilité normale.
C'était d'une liberté totale.
Mais tantôt, vous disiez, il y a eu de la paperasse pour devenir bio, mais est-ce que...
C'est tout venu après.
Mais après, est-ce qu'on vous devait...
En 96, il n'y avait pas de paperasse. Tu aurais voulu être bio, tu aurais eu la paperasse.
Oui.
Mais nous, en conventionnel, il n'y en avait pas. Que maintenant, même en conventionnel, ouais. Ils ont énormément de normes qui sont arrivées. Là. Il arrive des normes, des ministères, là, ça ne finit plus.
Oui.
C'est tout des gens dans des bureaux, je ne sais pas quoi ils pensent. Parce qu'ils font, mais eux, ils font que ça. Trouver des aiguilles enfilées dans les bottes des agriculteurs, là.
Tu vois, ça c'est oui, exactement. Puis ça, c'est une des difficultés, là, ça arrive en quatrième position. Difficulté d'adaptation au changement de politique agricole. Donc, les politiques agricoles changent comme on change de chemise. Là.
Comme on change de gouvernement aussi. Là. Non, mais voilà. C'est
exactement.
Ça.
Puis tout ce qui vient aussi de l'Organisation mondiale de la santé.
Ouais.
Donc, tous les gouvernements sont sujets à ça.
Il y a des adaptations, j'imagine, aussi au marché, parce que la mondialisation a accéléré là, à vitesse grand V dans les 25 dernières années. On se retrouve en compétition avec le monde entier, spécialement dans le monde agricole. Ici, les producteurs laitiers, les marchés se sont quand même assez ouverts. Là, ça reste protégé là, au Québec, mais quand même, la donne a changé dernièrement. Comment ils s'inscrivent dans ce nouveau contexte-là? Ça a un impact sur leur santé mentale?
Oui, ça a un gros impact sur la santé mentale. Je dirais que c'est le facteur de stress numéro un, de s'adapter justement à toutes les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle aussi, qui est rentrée dans les fermes, ça veut dire que maintenant, on a des fermes là, qui, pour rester en vie, doivent investir des millions de dollars pour avoir des robots automatisés où les vaches, par exemple, vont aller se faire traire elles-mêmes. Elles sont en liberté, mais elles vont se faire traire 2 à 3 fois par jour par la machine. Le fumier se fait ramasser par une machine qui se promène comme ça.
C'est le paradis, ça. Les agriculteurs sont libérés de toutes ces tâches-là. Vous pensez quoi de ça? Ça ne vous tente pas de faire le virage vers les robots, vous, non?
Ça ne me tente pas du tout.
Vous pourriez passer vos semaines ici, là, au Verbe, avec nous, à jaser d'agriculture?
Non, parce que je voudrais bien jaser avec leurs banquiers, ces gens-là.
C'est ça, parce que probablement que toutes ces machines-là sont louées ou coûtent quelque chose à être achetées.
C'est des gros investissements qu'il faut...
3 millions de dollars.
On devient comme dépendant, j'imagine.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a l'entretien de ça aussi.
Ah,
ouais. Ils investissent là-dedans.
Oui.
Mais chaque année, par exemple, un robot de traite, c'est 25 000 $ juste l'entretien à chaque année. Mm. C'est juste l'entretien, ça. Puis dans 10 à 15 ans, il est foutu, le robot. Il faut en racheter un autre.
Mm.
Mais c'est 300 000, un robot. Donc, il faut quand même y penser.
C'est vrai.
Est-ce que tu auras fait assez de lait pour payer cet entretien et... le robot qui est fini au bout de 12 ou 15 ans.
Mais ça veut dire que pendant ces 10 ans-là ou 12 ans que le robot fonctionne, le fermier, lui, il se la coule douce ou qu'est-ce qui se passe?
Non, parce qu'il a énormément de travail, pareil.
Ah oui?
Parce qu'il a augmenté le troupeau pour pouvoir payer ses machines.
Huh.
Donc, quand tu augmentes après, ben, il y a plus de fumier à charrier, il y a plus de veaux à faire boire.
C'est un cercle vicieux.
Il y a un suivi du troupeau là, au niveau des veillages, des tarissements des vaches, tout ça. Y a
c'est pas vrai
suivi.
Qu'il n'y a plus rien à faire, au contraire.
Donc, lui, non, il est occupé en masse.
Aïe, aïe, aïe.
Puis, l'affaire qui vraiment, c'est comme un fun fact là, que j'appelle, là, c'est au Québec, avant, c'était l'Union catholique des cultivateurs. Mais en 1972, ça devient l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. Alors qu'on voit que le changement de nom, hein, c'est aussi un changement de paradigme. On voit que le changement de nom, c'est comme un reflet de la progression des connaissances, des techniques, qui va devenir hautement spécialisée.
Ça devient une production industrielle comme une autre, entre guillemets.
Voilà.
On applique les principes industriels à quelque chose qui est de l'ordre de la terre, de la nature.
C'est à partir de ce moment-là que ça va devenir une monoculture de masse. Mm-hmm. Chaque ferme va être spécialisée dans le lait, puis va produire pour la masse. Mm-hmm. Puis c'est ça qui va faire en sorte que aujourd'hui, on a 7000 fermes qui ont disparu depuis 1996.
James?
Je vous disais dans l'intro d'émission que j'ai vécu à Neuville pendant quelques années, puis il y avait, vous savez, Neuville, c'est reconnu pour le blé d'Inde, le maïs.
Le meilleur blé d'Inde au monde.
C'est ça. Puis il y avait un grand producteur de maïs de Neuville qui s'était fait offrir un contrat par une filière alimentaire que je nommerai pas. Et puis, donc, en signant le contrat, il doit fournir un certain nombre de maïs par année. Peu importe la température, peu importe. Donc, il promettait ça à un prix, à un tel prix. Et finalement, ils lui ont fait faire faillite, s'est suicidé.
Ça... Parce qu'il n'a pas réussi à fournir la quantité.
Ben non, selon ce qui était, mais c'est des quantités...
Parce que c'est même pas réaliste.
Des quantités déraisonnables avec des... C'est ça. Des totalement irréalistes qui ne prennent pas en considération du tout...
Oui, ça existe, ça. C'est des contrats que tu peux prendre avec des grosses boîtes de grains ou des boîtes dans l'alimentation.
Ouais.
Et puis, tu dois fournir le contrat à l'automne. Si tu n'arrives pas à fournir avec ta production, tu te débrouilles. Il faut que tu rachètes du grain ailleurs pour fournir ce contrat-là. Mais souvent, dans ces cas-là, c'est parce qu'il n'y en a pas de grains.
Ben ouais, c'est ça.
Tu vas le payer très cher, donc tu vas te ruiner avec ça.
Ah, fait que, tu sais, c'est comme de la culture. C'est vraiment un système qui fait en sorte qu'on surproduit. On sait qu'il y a beaucoup de gaspillage de nourriture, que c'est mal réparti. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au niveau écologique, ben, on va faire de l'agribashing. C'est pas très populaire au Québec, là, je dirais que c'est plus en France, où il y a beaucoup d'agriculteurs qui se font traiter de destructeurs de l'environnement.
De pollueurs de masse.
Ça, ils polluent, ils traitent mal les animaux, je comprends. 3 traites par jour, on peut croire que c'est maltraiter les animaux. Mais en même temps, on participe à ça. Alors, tu sais qu'il y a 40 % des agriculteurs qui déclarent avoir vécu au moins une situation de harcèlement en 2019. Juste en 2019. Ça, c'est au Québec.
Ils deviennent des espèces de boucs émissaires de problèmes écologiques.
C'est ça. Ils se font crier
après.
Mettons, tu te promènes avec ton tracteur dans le chemin. C'est lent, un tracteur. Hein? Tu sais, quand t'es pris en arrière d'un tracteur, ça t'énerve, hein? Ben, à la place, je dirais, ben, dis donc merci à ce fermier-là de se promener avec du beau foin, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas manger, tu sais. Uh-huh. Mais moi, cette recherche, ça m'a vraiment aidé à me reconnecter avec ce que j'ai dans mon assiette le soir. Il y a du monde qui ont travaillé à la sueur de leur front pour que ça arrive jusqu'à moi, tu sais. Les œufs, ça pousse pas à l'épicerie. Tu sais, puis le lait non plus. Uh-huh. Tu sais, il y a du monde en arrière de ça, tu sais.
Il nous reste deux petites minutes, Brigitte. Ouais, vas-y, James.
Ben, on rit, mais tu sais qu'il y a des sondages qui ont été faits auprès des jeunes dans l'école dans les dernières années, là, puis qui montraient qu'il y a beaucoup d'enfants qui ignorent ces réalités fondamentales-là. Oui. Comme quoi, aujourd'hui, quand il y a tellement une fracture entre le monde urbain et rural qu'on peut justement développer cette ignorance qui fait que... Par la suite, ça fait qu'on développe un mauvais rapport aussi avec l'alimentation puis la terre, etc.
Mais j'aimerais reprendre une chose, là. Les personnes qui traient les vaches 3 fois par jour, ça, c'est pas notre vision à nous, personnellement. Mais je dirais que les agriculteurs, là, en général, tous les agriculteurs, ils aiment leurs animaux. Donc, même une personne qui va traire ses vaches trois fois par jour, ben, il va nourrir sa vache en fonction de le traire trois fois par jour. Il va s'en occuper de sa vache. Donc,
il va l'amener au vétérinaire quand elle va être malade.
Oui,
va...
c'est ouais, ça.
Les gars, ils s'occupent
c'est,
de leur
troupeau. C'est pas vraiment, moi, je pense pas que c'est mauvais pour les vaches. C'est maltraiter les vaches de les traire trois fois par jour. C'est juste que c'est une autre production que nous, on est... C'est pas notre vision à nous. Mais les agriculteurs, ils aiment leurs animaux.
Oui, puis ultimement, ils sont victimes aussi d'un système qui les dépasse.
Oui, oui, c'est ouais. ça, tout à fait. Puis ils sont vus comme des personnes qui maltraitent les animaux, alors que
ils sont vus
vrai.
Comme ça. Ouais.
C'est ça,
fois.
C'est ça.
Mais, tu sais, les agriculteurs, que ce soit dans le lait, dans les vaches de boucherie ou dans n'importe quel...
Aussi, ouais.
C'est ça. Ils aiment leurs animaux parce que c'est une vocation, être agriculteur. Mm-hmm. Ouais.
Comment alors nous, par exemple, quand on envoie nos vaches au champ, on les traverse la route. Alors, les chars s'arrêtent. On passe nos vaches. Puis quand on guide nos vaches, on a un bâton. Ben oui. Alors, le but, c'est de jamais servir du bâton. Mais ça prend un bâton. Et il y a des gens qui sont de la campagne qui savent, mais il y a des gens qui ne sont pas de la campagne. Donc, ils te voient avec un bâton en train de guider tes vaches. Pour eux, tu es un gros méchant.
Ouais.
Mais ils ne se rendent pas compte. Et ils ne savent pas qu'une vache qui se vire de bord, c'est 700 kilos qui t'arrivent dessus, là. Puis ton bâton, il n'est pas gros pour la vache.
Ça fait peur.
Oui. Si tu n'as pas de bâton, elle peut te tuer.
Oui.
Donc, ça, c'est toute une notion que les gens ne savent pas. Mm. Alors, le but, c'est d'avoir toujours un bâton. Moi, si demain, toi, tu viens dans mes vaches, je vais te dire, prends un bâton. Tu ne t'en serviras sûrement jamais. Mais il faut que tu aies un bâton.
Oui, ouais, je vais en prendre peut-être deux même.
Voilà, c'est tout.
C'est ça. Mais peut-être que, c'est ça, s'il y avait... un petit peu plus de reconnexion ou de connexion. Tu sais, on n'a plus d'agriculteurs dans nos familles, mais voilà. Avant, toutes les familles québécoises, tu avais au moins un fermier dans ta famille, un curé, un médecin, un notaire.
Dans le bon vieux temps.
Dans le bon vieux temps. Je dis pas que c'était mieux avant, mais on avait une connexion qu'on n'a plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être reconnecter à ça? Ben, peut-être commencer à manger local.
Aller visiter des fermes.
Aller visiter des fermes. On en a tous autour de nous. Prendre un panier bio. Tu sais, il y a des trucs à faire.
C'est d'acheter un peu de viande de temps en temps d'un fermier.
C'est ça. Ça peut être ça. T'sais, mais essayer de reconnecter avec... Ben,
pour ce qui est de la détresse psychologique, on va terminer avec ça. Brigitte, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place ou il y a des pistes de solutions qui ont été envisagées là, pour... on parlait des travailleurs de rang. C'en est une initiative qui est relativement nouvelle, qui permet de...
C'est l'UPA qui a mis ça sur pied hein, en passant avec l'ACFA. Là. Mais je te dirais que ça prendrait un plan national de prévention. Mais... on me dit qu'au niveau gouvernemental, ça ne bouge pas beaucoup.
On ne sent pas qu'il y a de la volonté ou de
on ne sent pas que c'est les priorités du gouvernement. Mm-hmm. Alors que ça devrait être au centre de nos préoccupations parce qu'on mange trois fois par jour. Là. C'est assez important. Puis on parle d'écologie, de bio, mais ça commence là, là. Il faut un peu plus de concret. Mais tu sais, nous, dans notre vie, moi, j'aime beaucoup les relances qui viennent nous raconter, c'est de la simplification de vie. Simplifier notre mode de vie. Je pense qu'on a beaucoup à gagner en simplifiant notre façon de vivre, notre façon de consommer, réduire notre consommation. À part ça, c'est sûr qu'on peut demander au gouvernement de faire plus, mais ça, on peut demander de faire plus au gouvernement dans tous les domaines.
Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est l'amour de l'argent. Puis,
oui, faut, de grossir de plus en plus, puis d'avoir des plus gros tracteurs, puis des, la plus belle robe, la plus belle ci. Mais oui, on est tous comme ça. Mais c'est ça, peut-être juste...
Puis nous aussi, du côté des consommateurs, on veut absolument payer le moins cher possible, peu importe si ça vient de l'autre bout du monde, peu importe le parcours que ça a fait, par qui ça a été cultivé, c'est important d'avoir cette conscience-là autant que possible, évidemment.
T'sais, moi, j'essaie d'acheter de plus en plus... d'acheter ce qui vient du Québec. J'essaie le plus possible, tu sais.
Des fois, c'est le même prix.
Oui. Oui, des fois, c'est le même prix. Puis, tu sais, d'acheter des fruits et légumes de saison. De changer un peu des habitudes, tu sais, les fraises qui viennent de la Californie au mois de décembre.
Elles sont même pas bonnes, de toute
façon. On va se le dire.
Tu sais, il y a des trucs comme ça, hein? Ça serait cool.
Ça serait aussi pour le gouvernement de nous soutenir dans le sens que de respecter, de ne pas rentrer les aliments d'ailleurs pour que notre quota il reste là. Notre production...
Dans beaucoup de choses. Hein.
Oui, c'est ça. Mm-hmm.
Même dans la viande, dans tout, qui arrive des viandes du Brésil ou d'Argentine, alors que de la viande, on en a en masse au Canada. Mais ça, c'est géré par des grosses boîtes. Hein. C'est tout. Des grosses multinationales qui gèrent ça. Donc,
Oui, c'est de protéger nos produits locaux, mais canadiens. Mm-hmm. Ouais.
Mm-hmm. Brigitte Bédard, merci beaucoup.
Merci.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com.
C'est déjà tout pour cet épisode, mais avant de se laisser, une suggestion culturelle de Brigitte Bédard.
Oui, c'est le film documentaire « Ferme familiale » qui est sur tout.tv. C'est l'histoire de, justement, la ferme Montcalm, les frères Montcalm, qui vont décider de s'endetter lourdement pour moderniser leur étable avec des robots pour faire la traite des vaches, optimiser la production et ultimement inciter les prochaines générations à poursuivre le travail des aînés amorcé il y a 100 ans. Hmm. C'est un documentaire qui dure à peu près 52 minutes, réalisé par Mathieu Quintal, et c'est excellent. C'est vraiment bon. Je suggère à tout le monde d'aller voir ça. Ferme familiale sur tout.tv.
Merci, Brigitte. James?
Oui, il y a un documentaire qui m'a beaucoup marqué, là, il y a plusieurs années, mais je crois que c'est sorti environ en 2013. Ça s'appelle Food Inc. Ça a été traduit en français « Les alimentaires ». Donc, c'est un documentaire qui montre tous les rouages de l'agriculture moderne, du commerce et de la commercialisation des aliments aujourd'hui en Occident, de la monoculture et de tout ce que ça implique. Assez choquant comme documentaire, mais aussi très instructif. Donc, Food Inc., les alimentaires.
Merci, James. Merci, Brigitte. Merci du fond du cœur à Nicole et Nicolas Roland. Merci à vos garçons aussi qui ont tenu le fort pendant ce temps-là à la ferme, à Hérouville. On peut passer vous voir à la ferme si on veut vous dire bonjour. Ouais,
venez. Quand il dit non, il dit oui.
Quand tu veux. Quand
venir saluer vos vaches aussi, voir ce beau troupeau-là. Merci beaucoup de vous être déplacés. Merci à Marie Laliberté et Marianne Martin à la technique. Et vous pouvez en tout temps partager cette émission-là sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas, on est sur YouTube, Facebook. Allez-y allègrement et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.